Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalungu qui sont relayés par 46 radios et 6 télévisions partenaires sur l'ensemble du territoire du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalungu. Notre site internet www.studiokalungu.org. Bienvenue dans ce forum du studio Kalungu, l'émission qui répond aux questions que vous vous posez régulièrement. Ce soir, le thème du forum porte sur l'hygiène menstruelle chez les femmes et les adolescentes au Niger. L'hygiène menstruelle est entourée de silence, de mythes et de tabous et fait l'objet de stigmatisation. Selon les statistiques de l'ONG WaterHealth, environ 800 millions de filles et de femmes en âge de procréer ont leurs règles à travers le monde à l'échelle d'une journée. Toutefois, cette période est un véritable calvaire pour de nombreuses femmes et filles qui ne savent pas comment prendre soin de leur menstrues. Elles peuvent être dépourvues de moyens pour le faire ou bien le faire face. C'est donc pour comprendre la question de la gestion de l'hygiène menstruelle, l'impact sur le vécu de la femme et de la fille, comment briser le tabou et promouvoir les bonnes pratiques de gestion de l'hygiène menstruelle que nous avons initié ce forum. Pour échanger autour de ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Salou Adama Ayouba, gynécologue obstétricienne à la maternité Isaac Gazobi de Niamey. Bonsoir Dr Salou Adama Ayouba.
Bonsoir madame.
Indo Mamansani, membre de la cellule nigérienne des jeunes filles leader CNJFL. Bonsoir Indo Mamansani.
Bonsoir.
Et Abdel Nasser Moumouni, membre du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia. Merci donc d'accepter notre invitation. Je suis Fatih Zakari à la présentation du forum. Bienvenue à tous dans ce forum sur l'hygiène menstruelle des femmes et des adolescentes. Je commence par Dr Salou Adama Ayouba, gynécologue obstétricienne à la maternité Isaac Gazobi de Niamey. Docteur, la menstruation chez la femme, qu'est-ce que c'est?
La menstruation chez la femme, c'est l'écoulement des règles au moins une fois par mois, surtout à partir de 9-10 ans chez les filles. Et là, c'est une puberté normale. Et chaque mois, la jeune fille doit avoir ses règles de manière régulière, 3 à 7 jours.
À partir de quel âge commence la menstruation et quelle est la durée normale?
Normalement, dans le cycle normal chez la jeune fille, ça commence à partir de 9 ans. Mais il y a ce qu'on appelle des cas tardifs qui peuvent aller jusqu'à 16 ans, jusqu'à avoir les règles. Et chaque mois, un cycle régulier de 28 à 30 jours, la fille doit avoir l'écoulement des menstruations normales. C'est du sang qui n'est pas très noirâtre, qui ne se coagule pas tout de suite, qui coule normalement, qui n'est pas abondant, au moins pendant 3 jours, 4 jours ou jusqu'à 7 jours.
Merci, docteur. Indo Mamansani, membre de la cellule nigérienne des jeunes filles leader. Veuillez donc à nous présenter brièvement donc votre structure, leur mission et objectif.
Ok, bonsoir. La cellule nigérienne des jeunes filles leader est une association à but non lucratif qui est née en mai 2015 et qui intervient dans plusieurs domaines. Entre autres, l'autonomisation de la femme, le leadership féminin, la lutte contre le mariage des enfants, l'éducation de la jeune fille.
Merci Indo Mamansani. Abdel Nasser Moumouni, vous êtes membre du Régia. Votre structure, quelle est sa mission, son objectif?
Très bien, merci. Le Régia, c'est le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. C'est une structure de la société civile et des médias qui a été créée en 2010 par des journalistes de la presse écrite, de la presse audiovisuelle. Et il s'agit pour le Régia d'accompagner les politiques publiques de l'État en matière de développement, notamment sur les secteurs de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Entre autres, les missions du Régia, c'est de faire le plaidoyer pour que l'État, les partenaires techniques et financiers priorisent le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans le cadre de la mise en œuvre des actions de développement. Parce que le secteur de l'eau, il est important, il est fondamental pour le développement d'un pays. Et l'autre mission, c'est également faire du journaliste un véritable acteur du développement. C'est-à-dire, pour nous, le journaliste ne se limite pas à quelqu'un qui part sur le terrain, chercher à l'information et revenir traiter et diffuser. Non, le journaliste doit prendre part aux actions de développement.
Docteur Salou Adama Ayouba, gynécologue obstétricienne à la maternité Isaac Gazobi. Docteur, pourquoi la question de la menstruation est considérée comme un sujet tabou dans nos sociétés?
Bon, le problème de la menstruation, c'est un sujet tabou dans nos sociétés, c'est depuis des temps anciens. Nos mamans ne veulent pas parler. On n'éduque pas la jeune fille à connaître et comment se faire les menstruations, ça vient à partir de quand, comment se comporter quand ça vient. La maman, on dit d'en parler, la grand-mère ne veut pas en parler non plus.
Oui.
Donc, c'est ce que la société avait depuis longtemps. Mais actuellement, je pense que les gens ont un peu ou ont changé de comportement avec l'avènement de la technologie et les activités des différentes ONG, surtout sur l'éducation sexuelle dans les écoles, sur les internets, les enfants, les jeunes filles vraiment cherchent à s'intégrer, à comprendre ce que c'est que la menstruation.
Et si nos sociétés n'en parlent pas, quel impact cela peut avoir sur le vécu de la femme?
Si les sociétés n'en parlent pas, on avait vu l'enfant quand il y a les premières règles, et elle pleure, ça ne va pas, c'est démoralisant psychologiquement, le temps de s'adapter. S'il n'y a personne de la famille pour prendre cette jeune, cette fillette-là en charge, l'informer, l'éduquer à se comprendre, voilà comment elle peut faire, voilà comment elle peut se comporter, voilà les moments que ça vient, voilà ce qu'il y a lieu de faire pour que ça ne tâche pas ses pagnes. Donc la personne vraiment, on a des cas où ça pose un problème, la fille est démoralisée, elle pleure psychologiquement, ça ne va pas.
Abdel Nasser Moumouni, membre de Régia, pourquoi donc la menstruation est un sujet tabou dans nos sociétés et quel impact cela peut avoir sur la jeune fille?
Voilà, je pense que la menstruation est un sujet un peu partout dans le monde, hein. Même dans les sociétés modernes, les parents, c'est-à-dire les personnes de troisième âge, ont du mal à aborder ce sujet-là aux jeunes filles, au fait qu'ils sont en âge de menstruer ou bien des jeunes filles adolescentes qui sont sur le point de voir leur menstruer. C'est-à-dire, nous vivons dans une société où tout ce qui a attrait à la sexualité, à l'intimité de l'homme ou bien de la femme est un sujet tabou. Les gens ont du mal à en parler et ça limite l'accès à l'information sur le menstrue. Et ça fait en sorte que des jeunes filles, chaque jour au Niger, il y a des jeunes filles qui voient leur première menstrue et qui se trouvent dans des situations assez complexes. D'abord parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. Ça peut les surprendre à l'école, au marché. Une jeune fille qui voit soudainement sa jupe ou son pagne tacheté, imaginez le choc émotionnel. Et s'il y a des gens qui l'entourent, peut-être ces personnes peuvent mal interpréter cela et ça peut avoir un fort impact au fait sur le plan psychologique et sur le plan de la participation à la vie socio-active. Pour moi, la première conséquence au fait du refus de ce débat-là sur la menstruation, c'est le fait que ça limite l'accès à l'information sur les menstrues et ça cause des problèmes à l'apparition des premières règles.
Sani, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que viennent de dire nos deux invités?
Bon, il a pratiquement tout dit. C'est surtout le fait que les parents ne parlent pas beaucoup de ça avec leurs enfants. Les jeunes filles, souvent, elles savent même pas en fait c'est quoi les menstrues, quand est-ce que ça arrive, et quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire. Et souvent, même quand elles voient ça, elles ont du mal à communiquer en fait avec leurs parents, avec leur mère ou bien leur tante, leur dire voilà ce qui s'est passé, parce qu'elles ont peur qu'on dise qu'elles ont fait quelque chose. Du coup, c'est un vrai blocage en fait pour la jeune fille.
Nous entamons à présent la deuxième partie du forum, partie consacrée à la gestion de l'hygiène menstruelle. Docteur Salou Adama Ayouba, gynécologue obstétricienne à la maternité Isaac Gazobi, qu'est-ce que c'est que l'hygiène menstruelle?
L'hygiène menstruelle, c'est les mesures que les femmes prennent en période de menstruation pour bien mener cette période-là à terme, sans complications, sans pour autant se contaminer, en utilisant surtout des serviettes hygiéniques ou autres protections qu'elles ont l'habitude de faire.
Et de quoi donc la femme ou la fille a-t-elle besoin pendant la période de la menstruation?
Pendant la période de la menstruation, elles ont surtout besoin d'être surtout en premier lieu propre, savoir qu'au moment où ça vient, je dois utiliser, il y a des serviettes, il y a beaucoup de méthodes que les gens, on a des méthodes surtout un peu traditionnelles, les gens d'autres utilisent des pagnes en fonction des sociétés. Mm-hmm. La vie moderne, c'est surtout les boutons, les tampons, les serviettes hygiéniques, les supports menstruels que les gens utilisent. Mm-hmm. Donc, il suffit de savoir que dès que ça vient, je dois mettre mes serviettes, je dois avoir tout propre. Quand je dois les échanger, je dois me laver, je dois être hygiénique.
Et quelle comparaison faites-vous en termes de qualité, les morceaux de tissu que les femmes utilisent et les cotons que les femmes ou les jeunes filles achètent dans les magasins?
Vous savez, les morceaux de tissu, c'est ce que les gens ont toujours utilisé dans les temps anciens. C'est ce que nous avons presque trouvé. Il suffit d'être hygiénique, savoir bien les laver, les mettre à l'abri, que ça ne soit pas dans un endroit sale. On ne désinfecte pas parce qu'en ce temps, les gens n'ont pas les moyens de désinfecter. Maintenant, avec l'avènement des serviettes hygiéniques, les serviettes hygiéniques, c'est quoi? C'est des protections hygiéniques internes que les gens utilisent qui permettent d'absorber le flux sanguin. Mais c'est que ces serviettes-là, quand on prend certains cas, c'est des produits chimiques qui sont utilisés parfois. C'est des pays industrialisés qui les font et on utilise des pesticides, des herbicides. Donc, et là, le risque d'avoir un produit dérivé pétrochimique est grand. Et les complications que ça peut amener aussi, c'est autre chose. Donc, ça dépend de la manière dont la personne l'utilise, comment l'utiliser et quand l'utiliser.
Merci, docteur. Nasser Abdoul Moumouni, quelles sont les initiatives entreprises par vos structures sur la question de la santé ou de l'hygiène menstruelle?
Sur la question de l'hygiène menstruelle, le réseau des journalistes pour l'hygiène et l'assainissement, le REGEA, il faut le préciser, depuis 2014, est engagé avec le ministère de l'Hygiène et de l'assainissement et ONU Femmes dans la question de la promotion de l'hygiène menstruelle à travers un vaste programme appelé Programme JAR, Hygiène et Assainissement, qui a été initié de 2015 à 2017. Donc, au cours de ce programme, le REGEA a pris part en tant que groupe de journalistes et d'acteurs de la société civile pour faire la communication sur la question de l'hygiène menstruelle, envie d'inciter les gens à changer de comportement pour amener les populations à comprendre que les règles, c'est un phénomène naturel que toute femme est appelée à voir. Donc, ce n'est pas parce qu'une femme voit ses règles qu'il faut l'exclure de la société, qu'il faut l'écarter ou qu'il faut simplement lui priver de tout ce dont elle a besoin. Ce travail de communication à l'EREGEA l'a fait à travers plusieurs outils, à savoir des films communautaires, des activités de sensibilisation terrain, afin que les hommes identifient leur rôle et leur responsabilité dans l'hygiène menstruelle. Parce que aujourd'hui, normalement, chaque père de famille, à chaque fin du mois, de la même manière qu'il dégage une bourse pour les condiments, pour la facture d'eau, la facture d'électricité, il doit dégager une bourse également pour les serviettes hygiéniques pour sa femme et ses filles. Mais aujourd'hui, il y a plein de pères de famille, même à Niamey, ici en ville, des pères modernes qui ont été à l'école des Blancs, mais qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas. Donc, le premier travail que nous avons mené au niveau du REGEA, c'est vraiment faire en sorte que les hommes connaissent, sachent au fait leur rôle et leur responsabilité dans la prise en charge de l'hygiène menstruelle et que les personnes changent de perception à travers des règles et qu'ils voient les règles de manière positive. On a également initié une caravane de sensibilisation sur la question de l'hygiène menstruelle dans le cadre du programme Spotlight de l'Union européenne qui vise à éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles à région à Maradi, à Zinder, à Tawa, où on a sensibilisé beaucoup de personnes dans les marchés. Et au-delà de ça, nous faisons une communication permanente à travers la célébration de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Vous savez, chaque 28 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. C'est 28, pourquoi? Parce que 28, c'est le cycle normal d'une femme et mai, c'est le cinquième mois de l'année, les 5 jours des règles. Donc, chaque année, nous célébrons cette journée-là pour interpeller l'État et les partenaires pour s'engager sur l'hygiène menstruelle.
Et est-ce que vous intervenez au niveau communautaire?
Bien sûr, nous intervenons au niveau communautaire, parce que vous savez, au niveau communautaire, la situation de la GHM, elle est assez complexe. Mm-hmm. Vous intervenez dans les zones où, en plus des problèmes classiques, à savoir l'accès à l'information, les serviettes hygiéniques ne sont pas disponibles. Il n'y a pas de l'eau potable. Mm-hmm. Parfois, les femmes, pendant les menstrues en milieu communautaire, c'est l'eau des mares, des marigots qu'elles utilisent pour assurer leur toilette intime. Vous imaginez les conséquences drastiques, au fait, sur leur santé, les infections, les maladies qu'elles peuvent contracter. Et au niveau communautaire, ce que nous faisons, c'est la sensibilisation pour une meilleure prise en charge de l'hygiène menstruelle. Mm-hmm. Comment nettoyer son tissu? Comment assurer le séchage? Avec quel type d'eau il faut assurer la menstruation? Et nous faisons aussi le plaidoyer pour l'accès aux toilettes. Parce qu'une femme ne peut pas prendre en charge ses menstrues si elle n'a pas de toilettes propres et sécurisées avec de l'eau. Si elle part aux toilettes pendant ses menstrues et qu'elle a le sentiment qu'elle peut être victime de viol, ou bien qu'il n'y a pas de l'eau, ou bien que cette toilette ne répond pas à ses besoins, c'est compliqué pour cette femme-là. Elle risque de rester à la maison. Donc c'est pour ça que nous sommes aussi engagés sur les questions en milieu communautaire.
Et est-ce que vous avez enregistré des résultats encourageants?
Oui. On a enregistré beaucoup de résultats encourageants en matière de promotion de l'hygiène menstruelle. Rien que le programme conjoint hygiène et assainissement auquel nous avons participé. Vous savez, ce programme a été mis en œuvre dans 3 pays, à savoir le Niger, le Cameroun, le Sénégal. Mais grâce à notre contribution, le Niger était premier lorsque ce programme fut évalué en matière de promotion de l'hygiène menstruelle. Pourquoi? Parce qu'on a enregistré d'énormes progrès en matière de changement de comportement. Pourtant, c'est le Niger qui a réussi le plus faible budget. Mais grâce aux paris relevés dans la communication, le plaidoyer, la sensibilisation, on a pu enregistrer des progrès intéressants. Et je voulais parler aussi des activités que nous faisons sur le terrain et qui ont permis d'enregistrer des avancées majeures sur la promotion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Parce qu'en milieu scolaire aussi, c'est un peu compliqué. Parfois, les garçons sont là, ça taquine les filles. Et ça, c'est des choses simples, mais qui ont un fort impact sur les filles. Et dans les établissements scolaires où nous avons intervenu, à savoir les Nordir et de Niamey ou bien au collège Mariama, les écoles ont aussi développé des mécanismes internes de gestion de l'hygiène menstruelle à travers des activités de sensibilisation, la mise à disposition des serviettes hygiéniques et plusieurs autres initiatives. Et je pense qu'en tant que REGEA, c'est peut-être modeste, mais c'est énorme pour le Niger.
Je reviens donc vers Indo Momansani, membre de la cellule nigérienne des jeunes filles leaders. Et quelles sont les initiatives entreprises par votre structure dans le cadre de l'hygiène menstruelle?
Sur la question de l'hygiène menstruelle, la cellule nigérienne des jeunes filles leaders a 2 grands projets phares qui sont le cercle d'influence et aussi le projet Chigaba Intimata. Le projet cercle d'influence est en fait un cadre d'échange et de confiance qu'on crée entre jeunes filles et jeunes femmes de 15 à 35 ans, scolarisées et non scolarisées. Et lors de ces échanges-là, les discussions, les thématiques en fait qu'on aborde, c'est généralement la gestion de l'hygiène menstruelle, la santé sexuelle et reproductive, le leadership féminin et l'entrepreneuriat de la femme. Et lors de ces échanges, il y a toujours une animatrice, une femme qui est experte en gestion de l'hygiène menstruelle, qui est là pour les guider, pour les conseiller, leur répondre à leurs questions.
Vous intervenez aussi au niveau communautaire ou bien c'est la ville de Niamey seulement que...
Oui, pour les cercles d'influence, c'est à Dosso, à Maradi, ici même à Niamey et également à Tawa. Maintenant, pour le projet Chigaba Intimata, nous intervenons dans 5 communes du Niger. Il y a la commune 2 et 4 de Niamey, la commune rurale de Tondikandia, la commune rurale de Damana et la commune rurale de Sakwara.
Et quel impact positif par rapport à vos actions?
Oui, effectivement, parce que pour le projet Chigaba Intimata, en fait, nous avons construit des ateliers pour 20 jeunes filles et jeunes femmes. Elles sont déjà couturières, on a équipé ces ateliers-là et on leur a appris à confectionner des serviettes hygiéniques réutilisables. Maintenant, actuellement, ces femmes, elles confectionnent ces serviettes et les revendent. Même lors du confinement du COVID-19, les femmes nous ont beaucoup appelé pour nous dire en fait que c'est ça qui les a aidées. Parce que genre, leurs activités étaient stoppées, surtout que vers Sakwara et autres, c'est des zones d'insécurité. Elles ne faisaient plus leur commerce et autres. Donc, à travers la vente des serviettes hygiéniques réutilisables, elles ont réussi à être autonomes, en fait. Et c'était ce que nous avons visé à travers ce projet-là.
Est-ce que les femmes s'intéressent à vos produits?
Oui, beaucoup. Tout le temps, on a des appels des femmes qui commandent et puis on les redirige en fonction de leur proximité, soit de la commune ou bien ici même à Niamey. Si elles sont du quartier Plateau, on les redirige vers l'atelier de la commune 2. Et si c'est Telaye ou aéroport, c'est la commune 4. Voilà.
Docteur Salou Adam Ayouba, vous êtes là? Docteur? Le temps donc de prendre docteur en ligne. Je reviens dans ce studio avec Abdel Nasser Amoumouni, membre de Régia. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes et les filles ont accès à l'information concernant les protections hygiéniques?
Beaucoup de choses ont été faites, mais il faut dire qu'il reste aussi beaucoup à faire. Parce que pour parvenir à l'accès à l'information totale, c'est-à-dire partout dans le monde et également au Niger, il faut qu'on arrive à changer nos normes sociales qui sont hostiles ou à tout ce qu'il y a à trait à l'intimité et à la sexualité en conséquence. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est multiplier les actions de communication, de sensibilisation, de manière à ce que nous privilégions les débats sur l'accès aux serviettes hygiéniques et l'hygiène menstruelle, c'est-à-dire au niveau de la cellule familiale, parce que la cellule familiale, c'est la base aujourd'hui de toute société. Aujourd'hui, par rapport à ce défi-là de serviettes hygiéniques, mais les femmes ont beaucoup de problèmes, parce qu'il y a aussi la précarité menstruelle. Vous avez une femme qui, à peine, gagne 500 francs par semaine et qui chaque mois doit acheter des serviettes hygiéniques pour assurer ses menstrues. Mais comment est-ce qu'elle va faire? Et dans quelle situation elle se retrouve? Et c'est dans ce sens que nous, Régia, nous apprécions beaucoup les initiatives que mènent beaucoup de structures à l'image de la cellule nigérienne des jeunes filles leaders. Pourquoi? Parce que ça permet au fait de réduire la précarité menstruelle. Les serviettes hygiéniques qu'ils fabriquent, c'est des serviettes hygiéniques qu'on peut laver, sécher et réutiliser. Ce ne sont pas les serviettes hygiéniques à usage unique qu'on jette et qu'à chaque mois, il faut débourser une bourse. Au moins, si on arrive à créer un stock de serviettes hygiéniques réutilisables, la femme pourrait les utiliser pendant un long moment. Et ça, au fait, ça réduit le coût de l'hygiène menstruelle et ça lui permet d'avoir accès, au fait, à ces serviettes hygiéniques. Et je pense que cette question de serviettes hygiéniques réutilisables, c'est la clé, au fait, pour améliorer l'hygiène menstruelle au Niger.
Docteur Salou Adam Ayouba, gynécologue obstétricienne à la maternité Isaac Gazobi. La cellule nigérienne des jeunes filles leaders confectionne des kits de protection. Quelle appréciation faites-vous de la qualité de ces kits hygiéniques Made in Niger?
Pour la confection des kits par cette association, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Parce que pour ceux qui ont l'utilisation actuelle des services hygiéniques, économiquement, c'est cher. En fait, le papier, ça peut très bien se passer tous les trois. Et j'aime aussi le voyage, une mère ou un père de famille qui peut donner chaque mois 1000 francs, 2000 pour acheter un papier à l'école, n'a même pas besoin de ça mettre dans la marmite. Et si cette association peut avoir un prix, en tout cas avoir le prix surtout, ou bien si c'est une contribution toujours à la qualité de vie des jeunes filles, vraiment, nous dirons.
Si l'hygiène menstruelle n'est pas prise en charge, quelles peuvent être les conséquences sur les conditions de vie des femmes et des filles?
Si l'hygiène menstruelle n'est pas prise en charge, les conséquences, c'est d'abord psychologiquement pour nous. La fille est démoralisée, les messieurs, les femmes arrivent à le dire. Les premières menstruations sont toujours douloureuses, lourdes, et la fille s'appelle, elle ne comprend pas, parce qu'elle n'a pas été éduquée ni sensibilisée. La deuxième chose, s'il n'y a pas d'hygiène, c'est-à-dire le respect des conditions d'hygiène dans ce qui est douloureux, le fait de s'infecter, c'est facile de s'infecter. L'utilisation des serviettes, quand les filles les utilisent, sans pour autant connaître les conditions d'utilisation, de changement, quand elles les doivent changer, normalement, c'est toutes les 3 à 4 heures du temps. Je ne dois pas l'utiliser tout le temps, toute la journée. Sinon, il y a le risque de maturation, le temps qui change, la prolifération des bactéries, et les irritations que ça donne, les odeurs désagréables. À la longue, on peut créer des infections qui peuvent remonter, donner ce qu'on appelle les infections génitales, poser des problèmes d'infertilité dans le futur. Donc, les problèmes sont énormes. Et il faudra vraiment que ça soit une bonne sensibilisation à ce niveau pour nos filles, pour nos soeurs.
Je peux aussi poser la question à Abdel Nasser Amoumouni, membre de Régia. En cas d'un cas de protection inadaptée, quels sont les risques auxquels la femme est exposée?
Lorsque la menstruation n'est pas prise en charge, c'est la femme même, elle est bloquée dans ses activités quotidiennes. Quand vous prenez chaque mois, une femme voit ses règles au moins 5 fois par jour. Vous multipliez ces nombres-là fois les 12 mois de l'année. Combien de jours ça va faire? Et si chaque mois, la femme doit être bloquée pendant 5 jours, elle ne doit pas aller à l'école ou bien elle ne doit pas aller au marché. Vous voyez, c'est les conséquences sur la participation de la femme à la vie socio-économique et surtout à son développement économique et social. Mm-hmm. C'est pour ça que nous sommes en train de faire le plaidoyer en tant qu'acteur de la société civile pour faire en sorte qu'une femme, qu'elle soit à la maison, au marché, dans une gare ou bien dans un service, qu'elle ait tout ce dont elle a besoin pour prendre en charge des menstrues, de l'eau propre, des serviettes hygiéniques adaptées et des toilettes sécurisées. C'est en ce sens là que nous pouvons soutenir l'autonomisation de la femme et son émancipation. Mais tant que des milliers de femmes sont malades ou bien sont bloquées à la maison ou bien ne vont pas à l'école des jeunes filles parce qu'elles n'ont pas tout ce dont elles ont besoin pour prendre en charge leur menstrues, nous ne franchirons jamais la barre pour atteindre l'égalité des sexes et nous ne permettrons jamais aux femmes de s'épanouir comme il se doit.
La problématique de la gestion de l'hygiène menstruelle freine l'éducation des jeunes filles dans de nombreux pays en développement. Selon l'UNESCO, un dixième en Afrique subsaharienne manque l'école lors de son cycle menstruel et nombreuses sont celles qui sont déscolarisées dès les premières règles par manque de protection hygiénique. Indo Mamanasani, en quoi le cycle menstruel peut être source d'abandon ou de déscolarisation pour la jeune fille?
Lorsqu'une jeune fille atteint l'âge d'avoir ses règles, elle part à l'école. Ça peut la surprendre n'importe où, à l'école, partout. Donc si elle est à l'école, elle part, elle voit ses règles. Généralement, les jeunes garçons, eux, ils ne connaissent pas ça. Eux-mêmes, en fait, ils doivent être sensibilisés par rapport à ça. Mm-hmm. Ils ne connaissent pas ça et puis ils vont se moquer. Mm-hmm. Et ces moqueries-là, ça affecte trop la jeune fille. Mm-hmm. Et elle ne va jamais vouloir. Moi-même, personnellement, si je vis ça, je ne vais pas vouloir retourner à l'école. Mm-hmm. Et du coup, c'est un vrai blocage parce que quand on partait dans les communes, on discutait avec les jeunes filles qui ont été à l'école et qui ont abandonné. Quand on leur pose la question, la plupart, elles disent que c'est à cause de ça. Mm-hmm. En fait, on s'est moqué d'elles et elles n'ont pas voulu retourner. Mm-hmm. Du coup, elles sont restées à la maison à faire des petits commerces. Et c'est vraiment dommage parce qu'on est en train, en fait, de perdre des cerveaux. Mm-hmm. Parce que la jeune fille, quand elle ne part pas à l'école, ça a un fort impact même économiquement sur... Pour le pays.
Et comment y remédier à cela?
C'est de faire des sensibilisations, de toujours faire des sensibilisations, de ne pas se décourager, sensibiliser et les jeunes filles et les jeunes garçons, tout le monde, les parents, c'est de sensibiliser. Voilà.
Abdel Nasser Amoumouni,
oui.
En quoi est-ce que le cycle menstruel peut être source d'abandon ou de déscolarisation pour la jeune fille?
Je pense que sur le plan de l'abandon et de la scolarisation sur la jeune fille, le premier problème qu'on constate au niveau scolaire, c'est que l'hygiène menstruelle n'est pas introduite dans les curricula et les manuels. C'est-à-dire, certes, au collège, on effleure un peu la question à travers les cours d'économie familiale, mais ce n'est pas assez évoqué. Du coup, en milieu scolaire, l'accès à l'information n'y est pas sur les menstrues. Et ça fait en sorte que les jeunes filles, elles ne savent pas ce que c'est. Et l'école étant le lieu où les jeunes filles scolarisées passent le plus de temps, elles risquent de voir leurs premières règles à l'école sans information et sans de quoi se prendre en charge. Et également, comme l'a évoqué notre cher ami de la cellule nigérienne des jeunes filles leaders, il y a aussi l'aspect au fait des garçons, au fait, qui ne sont pas sensibilisés sur les menstruations et souvent qui ont un comportement inapproprié à l'endroit des filles qui les frustrent et qui font en sorte que les jeunes filles ne viennent pas à l'école. Le deuxième problème, c'est également l'accès aux latrines dans les écoles. C'est-à-dire, vous avez des écoles où les toilettes hommes-filles ne sont pas séparées ou bien il n'y a pas de l'eau dans les toilettes. Donc, une jeune fille en période de menstrues ne peut pas venir à l'école simplement parce qu'elle sait que si elle vient, les toilettes ne sont pas assez propres pour qu'elle change ses serviettes hygiéniques ou bien il n'y a pas de l'eau dans les toilettes ou bien les toilettes ne sont pas séparées. Ça, c'est un véritable problème auquel les jeunes filles font face. Et il y a également les douleurs menstruelles. Parfois, les jeunes filles, pendant les menstruations, elles ont des douleurs. Peut-être elles ne peuvent pas bien suivre les cours ou bien elles ont besoin d'aller à la maison. Et lorsque l'enseignement n'est pas sensibilisé, elle ne sait pas ce que c'est. Il risque d'avoir un comportement hostile envers elle, voire même la punir, alors qu'il ne sait pas ce que c'est. Donc, Au niveau des écoles, il y a plusieurs facteurs au fait qui entraînent la mauvaise prise en charge de l'hygiène menstruelle. Et je pense que le Niger doit vraiment se doter d'une vraie politique de gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire.
La dernière partie de ce forum sera la promotion d'une meilleure gestion de l'hygiène menstruelle. La gestion de l'hygiène menstruelle n'est pas souvent abordée dans les milieux d'éducation, à savoir la famille, l'école, la communauté, laissant aux filles le seul choix de discuter entre elles pour appréhender et gérer toute seule la question. Idoma Mansani, comment faire pour briser le tabou pour une meilleure prise en compte du sujet de la société?
C'est de commencer à en parler. En parler, et nous, à travers notre projet, le cercle d'influence, on essaie toujours d'aborder les sujets tabous.
Je pense que pour une meilleure prise en compte du sujet de l'hygiène menstruelle dans la société, il faut qu'on arrive à créer une dynamique sociale qui implique tous les acteurs, au fait, afin de briser le tabou. Impliquer tous les acteurs veut dire quoi? C'est-à-dire il faut que les leaders religieux, les leaders traditionnels, il faut que les pères des familles, il faut que les décideurs, il faut que les députés, par exemple, à l'Assemblée, votent des lois pour la gratuité de l'hygiène menstruelle, pour la gratuité des serviettes hygiéniques, autant pour moi. Il faut que les leaders religieux, à travers les différentes prêches qui sont effectuées, arrivent à en parler dans la mesure où l'islam ne l'interdit pas. Au contraire, dans l'islam, il y a même des dispositions pour enseigner la menstruation aux jeunes filles et pour les éduquer. Et il faut également faire en sorte que dans les familles, que les parents aussi prennent leurs responsabilités, qu'ils s'engagent à parler de ce problème-là de l'hygiène menstruelle, qu'ils arrivent à développer une vraie relation de confiance envers leurs enfants. Et c'est ça qui permettra effectivement de créer le débat social, de briser le tabou pour l'hygiène menstruelle. C'est une implication sérieuse de tous les acteurs, que chacun à son niveau de responsabilité fasse de l'hygiène menstruelle un débat de tous les jours en donnant les bonnes informations.
Docteur Salou Adama Ayouba, gynécologue obstétricienne à la maternité Isaka Gazobi. Selon vous, comment briser le tabou pour une meilleure prise en compte du sujet dans les sociétés?
Et pour briser le tabou, la première chose d'abord, c'est ce qui actuellement qui a été instauré presque dans les écoles, par la santé de la reproduction, l'éducation de la santé de la reproduction, ce qui est parfois dans les programmes scolaire. Et la jeune fille à l'école, même si les parents n'arrivent pas à expliquer, à l'école, elle apprend quelque chose sur la santé sexuelle reproductive. Tout ce qu'on fait, beaucoup de familles actuellement, jusqu'à présent, la femme n'arrive pas à expliquer à son enfant ce qu'est la menstruation, quand ça vient, comment ça se passe. Donc, il faut que ça rentre dans l'éducation scolaire, dans le programme scolaire à l'école et les enfants. Dans l'école, à partir du CM2, je pense qu'on doit commencer à éduquer les enfants sur ça. Quand on a des jeunes filles, on explique toujours comment ça se passe. Quand on a des jeunes filles qui viennent accompagner des parents, après les explications, on sensibilise les parents. À la maison, si vous avez d'autres filles, c'est de sensibiliser, voilà, sur l'éducation, comment elles doivent se comporter, comment elles doivent faire l'hygiène même, faire la toilette, l'hiver, comment elles doivent gérer les services hygiéniques qu'elles utilisent chaque mois.
Docteur Alou Adama Ayouba, vous êtes gynécologue. Est-ce que les parents viennent vers vous sur cette question?
Oui, on arrive à voir des parents sur ça,
oui.
En consultation, oui. Surtout, soit la personne, la jeune qui a eu des retards ou des troubles de cycle, ou bien les parents s'inquiètent comment l'informer, elles viennent d'avoir les règles, comment l'informer sur la prise en charge. Comme on vient de le dire, c'est un sujet tabou. Les mères ne veulent pas savoir expliquer à la jeune fille que chaque mois tu verras les règles, parce qu'il est de tel nombre à tel nombre de jours. Voilà comment tu dois faire ça, voilà comment tu dois utiliser les serviettes, tu dois les changer, tu dois les laver, il faut se laver les mains avant le changement et après. Donc quand elles viennent, on les sensibilise, on les informe et on essaie de motiver la femme à ce qu'elle-même, quand elle sera à la maison, de changer de comportement envers les autres enfants, les autres filles, dans l'entourage aussi, d'essayer de sensibiliser dans l'entourage les filles et à changer le comportement dans la prise en charge de leur hygiène menstruelle.
Nasser Moumouni, vous êtes acteur de la société civile œuvrant dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Est-ce que la question de la gestion de l'hygiène menstruelle est prise en compte par les politiques au Niger?
Oui, la question de l'hygiène menstruelle est bel et bien prise en compte par les politiques publiques au Niger. Quand vous prenez le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement, le projet A, qui définit la vision de l'État en matière de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, l'hygiène menstruelle est prise en compte à travers la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles en matière d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Quand vous prenez au niveau des communes, il y a des documents de politique que les communes élaborent qu'on appelle les plans locaux hygiène et assainissement. La question de l'hygiène menstruelle est également prise en compte. Il faut savoir que depuis 2015, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement est en train de faire un travail avec un comité interministériel afin qu'au niveau de tous les ministères qu'on intègre l'hygiène menstruelle, parce que c'est une thématique transversale. Quand vous prenez au niveau du ministère de la Santé publique, il faut prendre compte de ça. Au niveau du ministère de l'Environnement, il faut en prendre compte de ça à travers la gestion des déchets menstruels. Donc le Niger est en train de faire beaucoup d'efforts et dans beaucoup de documents de politique publique, dont la politique nationale gère le programme sectoriel, eau, hygiène et assainissement, les plans locaux d'hygiène et d'assainissement de certaines communes, l'hygiène menstruelle est en train d'être prise en compte et est déjà prise en compte. Et je suis convaincu que le Niger est en train de faire des efforts qui sont appréciés, même au niveau de la communauté internationale.
Comment évaluez-vous donc la prise en compte de la question de l'hygiène menstruelle par les politiques au Niger?
En matière de planification, les politiques ont fait beaucoup d'efforts parce qu'on a beaucoup de documents, je l'ai tantôt rappelé, dans lesquels on retrouve l'hygiène menstruelle. Mais ce qui fait défaut au fait au niveau, ce qu'on reproche souvent aux politiques au fait, c'est vraiment l'absence de mobilisation de ressources en faveur du secteur de l'hygiène menstruelle. Parce qu'on a beau dire, dans tel document de politique, on a introduit la GHM. Mais par exemple, quelles sont les actions qui sont menées au niveau opérationnel, sur le terrain, pour voir effectivement si ces documents-là qui sont traduits dans des politiques sont appliqués? Et souvent, c'est l'absence de mobilisation de ressources. Par exemple, au Niger, on n'a pas de latrine GHM sensible. Les latrines GHM sensibles, c'est des toilettes qui sont adaptées, au fait, à la gestion de l'hygiène menstruelle, où vous y trouverez de l'eau, du savon, un conduit pour évacuer les déchets menstruels, un conduit pour évacuer les urines et un conduit pour évacuer les selles. Ça, c'est des infrastructures qu'il faut réaliser un peu partout pour permettre aux femmes, où qu'elles soient, de prendre en compte cette question de l'hygiène menstruelle. Il faut voter des lois pour subventionner les serviettes hygiéniques. Aujourd'hui, quand vous prenez les préservatifs, c'est gratuit, mais les serviettes hygiéniques, non. Pourtant, beaucoup de femmes voient les règles, qu'elles le veuillent ou non. Donc, il y a beaucoup d'initiatives que l'État doit prendre au-delà de dire on a introduit la GHM dans tel document, dans tel document. Il faut vraiment que l'État multiplie les initiatives au niveau opérationnel et qu'on alloue beaucoup de ressources au secteur pour permettre à toutes les femmes et toutes les filles du Niger de jouir pleinement de ce phénomène naturel qu'elles vivent chaque fin du mois.
Et quelles sont les contraintes liées à la gestion de l'hygiène menstruelle?
Les contraintes liées à la gestion de l'hygiène menstruelle, c'est des contraintes qui sont multiples et qu'on constate, nous, en tant qu'acteurs au niveau, sur le plan opérationnel. Il y a d'abord les contraintes sociales. On ne va pas en parler, on n'en fait que parler depuis le début de cette émission. Il y a aussi les contraintes infrastructurelles pour cette question de l'hygiène menstruelle. Et enfin, la plus grande contrainte qu'on rencontre, au fait, au niveau de cette question-là de l'hygiène menstruelle, c'est des contraintes qui sont liées à des pratiques et à des coutumes qui sont restées de plus en plus ancrées depuis plusieurs années dans nos communautés. Et c'est des contraintes qu'on n'arrive pas, au fait, à briser. C'est des tabous qu'on n'arrive pas à briser pour poser le vrai débat sur la question de l'hygiène menstruelle. Il y a aussi la question de la précarité de menstruer. Les femmes n'ont pas assez de ressources. Nous vivons dans un pays où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et en l'occurrence, les hommes gagnent plus de ressources que les femmes. Parce que les femmes, le plus souvent, c'est des ménagères, elles sont à la maison. Mais comment vont-elles faire pour s'assurer ces serviettes hygiéniques qui, le plus souvent, sont chères? Donc, il y a aussi cette question d'accessibilité-là. Et ça fait partie des principales contraintes que les femmes rencontrent, surtout en milieu communautaire. Je vous ai dit qu'au Niger, il y a des villages où, quand les femmes voient leur menstrue, c'est l'eau des mares et des marigots qu'elles utilisent pour assurer leur hygiène. Mais imaginez le drame pour la dignité de cette femme-là. Imaginez le drame pour la santé de cette femme-là. Et c'est pour ça que nous sommes en train de multiplier les efforts pour que les gens sachent que cette question de l'hygiène menstruelle, ce n'est pas quelque chose de banal. banal. Mm-hmm. C'est quelque chose qui représente plus de la moitié de la population. Mm-hmm. Et si nous voulons être un Niger juste et égalitaire, lutter contre la pauvreté, mm-hmm. il faut que nous prenions les taureaux par les cornes mm-hmm. par rapport à cette question.
Sani, les difficultés que vous vous rencontrez.
Bon, nous, on ne rencontre pas beaucoup de difficultés parce mm-hmm. que la thématique est bien accueillie. Lorsque nous partons dans les ministères pour présenter nos projets, mm-hmm. c'est bien accueilli, on nous encourage beaucoup, ils nous accompagnent beaucoup également. Mm-hmm. Et c'est surtout, en fait, les femmes qui sont un peu timides oui. pour en parler, pour parler de leurs menstrues et mm-hmm. autres. Mais ça, on a remédié à ce problème-là parce oui. que, bon, elles ont le contact d'une experte mm-hmm. qu'elles appellent de façon anonyme. Et oui. l'experte, récemment, elle nous a dit qu'en fait, elle reçoit beaucoup d'appels, mm-hmm. des questions qu'on lui pose de mm-hmm. façon anonyme. Donc, les femmes ne sont pas, elles se sentent pas exposées, en fait. Elles se sentent oui. à l'aise pour parler de tout ce qu'elles veulent. Mm-hmm. Du coup, bon, on rencontre pas beaucoup de problèmes, en mm-hmm. fait. Ça va.
Tout à l'heure, vous avez écouté Abinasser, un membre de REGEA, parler de quelques difficultés. Selon vous, quelle est la solution face à ces difficultés?
Que les autorités s'impliquent beaucoup plus mm-hmm. dans l'action, mm-hmm. que ça ne soit pas que sur les papiers, mm-hmm. que sur la planification, mm-hmm. et qu'on continue également les sensibilisations.
Merci. Nasser Moumouni, membre de REGEA, quelle solution face à ces contraintes, ces difficultés?
Je pense que la solution pour résoudre tous ces problèmes-là liés à l'hygiène menstruelle, je le disais tantôt, c'est d'abord une implication de tous les acteurs, mais il faut aussi une réelle volonté politique de l'État de faire en sorte que qu'au Niger qu'on dise aucune femme ou aucune jeune fille ne souffre parce qu'elle voit ses règles, aucune femme ou aucune jeune fille ne reste à la maison parce qu'elle voit ses règles. C'est cet idéal-là qu'il nous faut, et pour y parvenir à ça, il faut que nous arrivions à briser le tabou, à créer le débat social sur l'hygiène menstruelle. Il faut aussi qu'on développe aussi une véritable économie sur cette question de l'hygiène menstruelle, une économie locale, parce que les serviettes hygiéniques, c'est un marché, c'est un marché, c'est une industrie qui s'évalue à des milliards. Et ces milliards-là, ça fuite au fait, ça part vers les autres pays, parce que les serviettes hygiéniques que les femmes achètent dans les pharmacies, la plupart, ce ne sont pas des serviettes hygiéniques fabriquées ici, alors qu'il y a des groupements, des associations des femmes, comme ce que fait Cogefil, qui produisent des serviettes hygiéniques réutilisables d'excellente qualité. Donc, à travers, il faut qu'on encourage cette économie-là des serviettes hygiéniques pour qu'on arrive à développer une industrie locale qui non seulement contribue à l'autonomisation économique des femmes, mais qui leur permet aussi de prendre en charge leurs menstrues de manière correcte. Et je pense que ça, là, c'est fondamental.
Nasser Moumouni, membre de REGEA, quels sont les défis autour de la gestion de l'hygiène menstruelle de nos jours?
Les défis sont nombreux parce que pour gérer ces menstrues, il faut de l'eau propre. Et pour qu'il y ait de l'eau propre, il faut garantir l'accès à l'eau potable à tout le monde. Et dans un pays où moins d'un Nigérien sur deux n'a pas accès à l'eau potable, vous voyez le premier défi qui se pose, parce que c'est le défi de l'hygiène. On parle d'hygiène menstruelle. On ne peut pas faire de l'hygiène sans eau. Aujourd'hui, les femmes, où qu'elles soient, elles ont besoin d'eau propre pour assurer leur menstruation. Donc, il faut que l'État arrive à garantir cet accès à l'eau potable. Il faut aussi que les femmes aient également les dispositifs nécessaires pour prendre en charge leur menstruation, qu'elles accèdent aux kits d'hygiène et d'assainissement qui sont adaptés. Et au-delà de ça aussi, il faut que l'État s'engage à promouvoir l'hygiène menstruelle, c'est-à-dire à travers des lois qui seront adaptées et qui seront vulgarisées pour que tout un chacun sache que c'est un phénomène naturel et que c'est quelque chose de fondamental pour la santé et le bien-être des femmes.
Docteur, vous êtes là?
Oui.
Quels sont les défis autour de la gestion de l'hygiène menstruelle de nos jours?
Les défis pour nous autour de l'hygiène menstruelle de nos jours, c'est d'abord l'éducation sexuelle des jeunes filles. La première des choses, que qu'elles soient sensibilisées, c'est quoi l'hygiène menstruelle, comment prendre en charge, comment se comporter, comment changer les serviettes. Les serviettes doivent être de telle qualité. Et surtout qu'avec l'ONG, on espère que ça serait mis en place le plus tôt possible pour permettre de réduire le coût. L'éducation pour permettre de sensibiliser les jeunes filles afin de réduire le côté psychologique, les répercussions psychologiques que ça a sur la jeune fille. Et encore, la sensibilisation, surtout pour un changement de comportement de l'enfant, de l'enfant, dans la prise en charge de l'éducation sexuelle, ou bien avant de la jeune fille. Dès le bas âge, avant qu'elle arrive, à partir de 9 ans, quand même, on peut échanger avec sa fille Tu vois, à partir, elle peut comprendre. Quand ça va venir, quand ça va, comment tu dois faire, comment tu dois changer.
Indoma Mansani, quels sont les défis autour de la gestion de l'hygiène menstruelle?
Bon, ils ont déjà tout dit, mais j'aimerais beaucoup insister sur l'éducation de la jeune fille sur la santé sexuelle et reproductive. C'est en fait ça le grand défi. Il faut le faire partout, dans les communes, dans les villes, partout, parce que en fait, elles ont besoin de ça. Et que ce soit la jeune fille ou les jeunes garçons, on doit tous les éduquer sur la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille.
Nous sommes donc à la fin du forum de ce soir sur l'hygiène menstruelle chez les femmes et les adolescentes. Vous avez donc suivi l'intervention de nos invités sur les enjeux autour de la gestion de l'hygiène menstruelle et quelques solutions apportées pour promouvoir une bonne gestion de l'hygiène menstruelle au Niger. Nous étions en compagnie de Dr Salou Adama Ayouba, gynécologue obstétricienne à la maternité Isaka Gazobi, Indomo Mansani, membre de la cellule nigérienne des jeunes filles leader CNJFL, et Abdelnasser Moumouni, membre du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. La présentation est assurée par Fatih Zakari, la réalisation Mustapha Ayouba et la technique Saini Isaka.